Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire, effectivement consacré aux nouvelles organisations du travail et aux appétences des jeunes vis-à-vis du travail, au-delà du télétravail, demain tout slasher. Donc, je suis Odile Mento, je suis directrice adjointe au pôle social en charge de la cellule Veille stratégique et nouveaux enjeux sociaux. Et nous allons avoir une heure tous ensemble avec Miroslav Mirka qui va se présenter ainsi que nos invités.
Bonjour à tous, Mirka Ivanova, directrice de mission à la cellule Veille stratégique et nouveaux enjeux sociaux du pôle social du MEDEF. Nous nous retrouvons aujourd'hui effectivement pour parler des nouvelles organisations du travail dans l'entreprise, le sujet sur lequel nous avons travaillé, nous travaillons depuis longtemps d'abord au sein de la commission jeunesse et aujourd'hui au sein de la commission entreprise dans la société et inclusion. J'allais dire, c'est pour répondre aux demandes, aux nouvelles demandes des jeunes générations, mais pas que, parce que on sait la crise sanitaire a été à l'origine du développement massif du télétravail, mais on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours et du phénomène de slashing, qui n'est pas nouveau, traduit de l'anglais par multi-activité ou pluriactivité. Et nous avons convié, pour parler de ce sujet, d'abord Anne Brochard, qui est fondatrice de l'étincelle RH, donc un cabinet qui s'occupe justement de ces questions de recrutement, d'attractivité, d'évolution des ressources humaines. Elle est aussi administrative du MEDEF Pays de la Loire, donc elle connaît bien le tissu entrepreneurial du territoire. Et puis on a Mailing Black, une start-up qu'on appelle dans la presse une pépite d'innovation française. On a avec nous Thomas Kerjean, directeur général, et Catherine Vauden, la directrice des ressources humaines, qui ont mis en place une organisation de travail interne aux solutions innovantes. On va écouter leur témoignage par la suite.
Peut-être vous rappeler un petit peu le cadre de ces travaux. D'abord, comment vient de vous dire effectivement les travaux sur l'attractivité des entreprises auprès des jeunes est un sujet qu'on travaille depuis plusieurs mois maintenant, évidemment au départ au sein de la commission jeunesse et maintenant au sein de cette nouvelle commission entreprise dans la société et inclusion qu'a mis en place Patrick Martin et dont il a confié la présidence à Gilles Vermaudet-Roche, qui est vice-président citoyenneté de Schneider Electric, et Muriel Liénaud, qui est la présidente de Nestlé France. Alors, pourquoi créer cette nouvelle commission? Et vous allez voir qu'il y a un lien absolu avec le sujet d'aujourd'hui. D'abord, c'est que les entreprises sont face à une société qui est traversée par de nombreux défis qui s'imposent à elles. Et donc, l'objectif, c'est de montrer que les entreprises contribuent aux solutions, qu'elles sont un facteur de progrès social par leurs actions, par leurs engagements, notamment au sein du territoire, leurs engagements en faveur de la cohésion sociale et au service de l'emploi de tous. L'ambition, c'est également d'accompagner les entreprises face aux attentes de cette société qui est en pleine mutation. Et évidemment, on parle d'attractivité des entreprises, mais on parle aussi des nouvelles formes d'engagement qui s'imposent dans l'entreprise, hein, avec le développement de collectifs, par exemple, qui travaillent, qui font évoluer l'entreprise, je dirais, de l'intérieur, ou qui s'imposent à elle de l'intérieur. Tout le wokisme sur lequel on reviendra dans les prochains mois, parce qu'on va travailler sur cette question-là aussi, l'impact que ça peut avoir dans l'entreprise, la montée de l'individualisme et tous les sujets de la valeur travail et de l'articulation avec le filet de sécurité, qui est un sujet bien français. La troisième ambition, c'est bien de réconcilier le rôle social et la performance économique et de montrer que les deux ne sont pas antinomiques. Et je pense qu'autour de la table, on en est tous parfaitement convaincus, pour œuvrer une croissance sociale qui soit responsable et durable. Et là, vous voyez, on parle bien de l'inclusion par l'emploi, des publics très en difficulté, des jeunes mixtes, des réfugiés, etc., etc. Mais je ne vais pas m'attarder. Alors, après la semaine de 4 jours, Donc, on a fait un webinaire, on a fait une note sur le sujet il y a quelques semaines. On a voulu faire ce webinaire sur toutes ces nouvelles attentes vis-à-vis du travail et ces nouvelles formes d'emploi aussi qui viennent dans l'entreprise et voir un petit peu finalement quelles conséquences ça a. Est-ce que ça sera vraiment le futur du travail qui va s'imposer ou est-ce que c'est des épiphénomènes? Le sujet est posé et loin d'être tranché, mais en tout cas, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. C'est d'abord l'évolution du marché du travail et des attentes vis-à-vis de ce travail. On est évidemment dans un contexte économique qui certes commence à se dégrader, mais où les entreprises continuent à avoir des difficultés de recrutement. Et donc, finalement, se confronter à un nouveau rapport de force entre les entrants qui se présentent sur le marché du travail et leurs demandes, et donc, finalement, les attentes de ces nouvelles, de ces actifs qui viennent dans l'entreprise, si elles ne sont pas nouvelles, en tout cas, s'imposent peut-être un peu plus qu'avant pour faciliter, ça peut être la condition, pardon, d'un recrutement et d'une meilleure attractivité. Donc, c'est un sujet qui s'impose. Deuxièmement, évidemment, le développement massif du télétravail pendant le Covid, hein, qui a changé complètement les modes de travail, le rapport au travail et le rapport aussi au collectif de travail, même s'il y a encore il y a des mouvements un peu différents qui arrivent. Une demande de plus de flexibilité au travail. Alors là, on est évidemment sur les jeunes, mais ça s'adresse également aux moins jeunes. On constate que l'ensemble des actifs ont des demandes de flexibilité au travail, avec des demandes d'individualisation de leur organisation. On parle d'horaires flexibles, on parle de la semaine de 4 jours qui en ce moment est dans le débat public avec l'annonce de Gabriel Attal de développer la semaine de 4 jours dans la fonction publique, mais aussi le souhait de multi-activité ou plus simplement un souhait de diversification des tâches. Et enfin, évidemment, une plus grande porosité vie personnelle, vie professionnelle, sujet dont on parle aussi là aussi depuis un certain temps. Alors, est-ce que finalement ces évolutions, ces tendances sont des mouvements de fond? Est-ce que c'est des épiphénomènes? C'est vraiment une question hein, sur laquelle on n'a pas tranché, personne n'a tranché. En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des tendances divergentes en fonction des différentes études, des sondages qui sont menés de façon extrêmement régulière. Et c'est vrai qu'on ne peut pas conclure à ce stade à des changements de modèle. Je pense qu'il faudra qu'on ait un petit peu de temps, en tout cas, pour savoir si on est vraiment sur des changements structurels. On vous a mis là quelques résultats de sondages hein, qui sont assez récents, qui sont des sondages OpinionWay. Par exemple, 30% environ des salariés français aimeraient cumuler plusieurs emplois pour éviter un anglicisme. Une proportion beaucoup plus élevée pour les moins de 30 ans. 67% des salariés qui disent qu'ils aimeraient travailler 4 jours par semaine. Une très grosse majorité sur les 18-30 ans, avec un petit bémol. Souvent, les gens qui souhaitent travailler 4 jours par semaine ne sont pas forcément ceux qui l'ont expérimenté. Donc, il y a aussi ce volet-là, parce qu'on sait bien que la semaine de 4 jours aussi peut conduire à une intensification du travail, hein, puisqu'on fait le même nombre d'heures de travail sur une durée beaucoup plus réduite, donc ce n'est pas non plus forcément la panacée, mais en tout cas, il y a des demandes en ce sens. Des résultats beaucoup plus sanctuarisés, on va dire, un tiers de la population française exerce plusieurs métiers. La demande des jeunes actifs aussi de ne plus forcément avoir un CDI, mais plutôt des missions intéressantes, des allers-retours au sein de l'entreprise, hein, avoir une mission en entreprise, aller ailleurs, revenir avec des nouvelles compétences, etc. Et là aussi, une demande d'horaire flexible. Évidemment, ces nouvelles formes d'organisation du travail peuvent constituer une réponse économique à un besoin qui est aussi un besoin social. Cependant, il faut quand même rappeler que la très grande majorité des contrats en stock sont toujours en CDI. Donc, même s'il y a des tendances à toutes ces nouvelles évolutions, en tout cas, elles arrivent d'une façon assez lente sur l'ensemble de la population.
Voilà, et tout cela, tous ces constats apportent un certain nombre de challenges, d'enjeux pour les entreprises. D'abord, les avantages, hein, tu les as mentionnés, ça peut être un premier élément de la marque employeur pour les entreprises. La réponse à ces besoins de recrutement auxquels les entreprises font face en ce moment. C'est un moyen d'attirer de nouveaux talents et notamment des jeunes générations. On a vu qu'ils sont plus exigeants pour entrer dans une entreprise aujourd'hui, qu'ils demandent plus de flexibilité, plus de clarté dans leur mission, savoir à quoi ils contribuent par leur travail. C'est aussi un moyen pour les entreprises de réintroduire cette flexibilité dans les relations du travail comme une alternative au CDU ou en plein temps qui n'est plus forcément demandé aujourd'hui. C'est aussi la solution des ressources humaines pour motiver ses salariés, éviter du coup l'absentéisme dont on parle aussi comme un argument pour développer la semaine de 4 jours notamment, pour cultiver l'innovation, la créativité et ça peut être également un outil pour faciliter la reconversion professionnelle. Il y a aussi des nouveaux challenges pour les ressources humaines. Je pense qu'Anne Brochard en parlera mieux que moi. Mais juste rapidement, il s'agit d'un recrutement au-delà des parcours linéaires, c'est-à-dire un parcours prêt, un profil prêt à l'emploi, souvent le recrutement sur les diplômes. Les défis organisationnels, assurer la continuité du travail quand on a la moitié de l'équipe en télétravail ou quand on adopte la semaine de 4 jours, on a auditionné beaucoup d'entreprises qui expérimentent ce dispositif. Il y a la gestion des espaces coworking, il y a les activités professionnelles externes à l'entreprise, il y a notamment le management de slasher interne. Je sais qu'à l'étincelle RH, il y a des slasheurs qui sont déjà recrutés dans l'équipe, donc ça sera intéressant de vous entendre. Il y a aussi l'impact sur la productivité de l'entreprise. Et Odile, tu en as parlé, c'est avant tout comment faire collectif et comment ne pas perdre de vue finalement l'objet de l'entreprise face à ces demandes individuelles que les ressources humaines doivent de toute façon accompagner parce que le salarié recruté, c'est la dernière phrase qu'on a mis pour vraiment soutenir cette idée. Il est là finalement pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, je passe la parole à Anne Brochard. Est-ce que vous partagez ces constats? Quelle tendance vous percevez-vous dans votre travail à votre niveau? Est-ce que déjà vous faites face à ces nouvelles demandes que nous avons observées? Quelles sont les solutions innovantes? Quelles sont les réponses que vous proposez? Est-ce qu'il y a des risques, justement, l'impact sur les collectifs de travail? Est-ce qu'il y a ces stéréotypes? On en a parlé pour préparer ce webinaire qui existent, notamment sur les jeunes. Et quels sont les leviers, finalement, innovants dont on n'entend pas parler habituellement pour assurer cette cohésion d'équipe et faire le management de ces équipes aux multiples activités? À vous, Anne.
Merci beaucoup de me laisser la parole et merci aussi de m'avoir proposé de contribuer à ce webinaire. Alors, ce sera évidemment mon modeste point de vue que j'apporterai. Effectivement, ça fait 14 ans que j'écris une entreprise qui œuvre à la transformation des ressources humaines, à l'attractivité, au recrutement. Vous évoquiez tout à l'heure le sujet, est-ce qu'on est sur des tendances ou est-ce qu'on est sur un phénomène de fond? J'aurais tendance à dire que, de façon générale, c'est quand même un phénomène de fond. Parce que effectivement, il y a une évolution. Alors générationnelle, oui, on pourrait regarder de façon un petit peu plus précise la catégorie des jeunes travailleurs. Encore qu'il y aurait fort à dire sur la segmentation de cette catégorie, mais de façon générale, je pense que c'est une évolution sociologique. Toutes les générations au travail, je pense, ils sont sujettes. Donc ça, c'est un premier point. Et en revanche, les politiques, les outils, les méthodes RH qui sont employées, je pense à la semaine de 4 jours, je pense à des façons de travailler très précises. Là, en revanche, je pense qu'il ne faut pas non plus précipiter les réflexions et ne pas être trop, Faut pas empresser à choisir des solutions qui ne seraient pas les bonnes. Parce qu'en fait, un des enjeux, effectivement, c'est de considérer cette forme d'individualisme qui monte fort et qui donc tend à donner lieu à de l'individualisation dans les politiques RH, dans le management. Oui, il faut qu'on change un certain nombre de paradigmes, mais il est probable que du côté des dirigeants, et j'en ai fait partie malgré mon métier, il y a des pensées limitantes probablement à faire tomber parce que effectivement on est en train de changer de schéma à marche forcée et qu'il s'agit quand même d'accepter ces évolutions et donc de travailler aussi sur soi quand on est manager, quand on est dirigeant, sur qu'est-ce qui est de l'ordre de ce qui est important pour mon collectif, mais qu'est-ce qui est aussi peut-être de l'ordre des modèles que moi j'ai en tête, que j'ai connus, qui me plaisent ou avec lesquels j'ai fonctionné jusque-là. Et qui peut-être présente une contradiction avec ses évolutions et ses demandes. Donc effectivement, l'individualisation, c'est comment on la prend en compte sans pour autant galvauder le cadre collectif. Un point que je trouve essentiel et à la limite même dans les recrutements, on va le voir, c'est comment on propose une cohérence d'ensemble, en fait. Donc c'est-à-dire que l'entreprise doit se penser en tant que culture, avec évidemment un objectif, avec un projet de développement, avec des règles du jeu qu'elle va ensuite venir composer et définir selon justement ces éléments de culture. La semaine de 4 jours, si par rapport à son métier, par rapport à des schémas de relations commerciales ou par rapport à une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui va être contradictoire avec une pérennité, ça n'est pas forcément cette solution-là, peut-être qu'il faut adopter. Moi, j'ai tendance à dire, je suis, si je prends ce point de la semaine de 4 jours, je suis ni pour ni contre, je vais me dire, c'est pas répondre à la question, mais en fait, je dis toujours, de quoi c'est la solution, en fait. Donc, c'est avant tout déjà poser sa propre problématique avec toutes ces composantes que je viens de donner, son projet de développement, ses problématiques peut-être d'attractivité aussi, et donc cette culture d'entreprise. Et si, dans cette réflexion qui peut être concertée à des endroits, il y a en solution la semaine de 4 jours, alors ça devient intéressant de l'envisager. Mais c'est comment on pose la réflexion quand même autour de ces éléments. La tendance de fond, ouais, moi je la confirme quand même. Oui, il y a des demandes qui sont de l'ordre d'une forme de liberté autour de l'engagement au travail. J'étais assez contente, je crois que c'est la semaine dernière, il y a eu un sondage de sortie qui allait peut-être dans le sens de ce que je prenais, c'est que, par exemple, les jeunes générations veulent travailler. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'engager, elles ont envie d'y aller. En revanche, là où peut-être la question se pose, c'est comment je réenchante mon rapport au travail. Et donc, la construction d'une identité professionnelle qui passerait par une combinaison éventuelle de 2, 3 activités, ben, peut être une réponse à cette recherche de réenchantement. Il y a aussi un point qui pousse à réfléchir à des schémas différents, c'est, et on le partageait la semaine dernière aussi dans une autre table ronde, c'est le rapport au temps. En fait, ce rapport au temps, il est, je pense, important à considérer, c'est-à-dire que on a des générations aujourd'hui qui se côtoient, qui ont un rapport au temps professionnel, je veux dire durée de la carrière professionnelle, qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a ceux qui ont une durée prédéterminée en tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une retraite qui va arriver. Alors bon, si il y a des générations qui sont évidemment dans cette incertitude peut-être de la fin de carrière, mais néanmoins, il y a quelque chose d'une durée quand même prédéterminée. Et puis, des générations qui entrent sur le marché du travail, qui sont dans un temps qui est paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, la vie professionnelle n'a plus tellement, de façon concrète, une durée déterminée. Ça devient même assez abstrait, je pense, dans beaucoup de têtes. Et de l'autre, on est quand même dans une gestion du temps urgentiste, en fait. Donc, ça, à mon sens, donne ce phénomène qui est de dire, bah, à la fois, moi, j'ai envie de travailler, J'ai envie de faire des choses qui vont me faire exister aussi dans la société, dans une organisation, dans ma communauté et pour moi-même. Et à la fois, cette urgence, c'est comment je m'en sers. Alors, il y a ces paradoxes, à la fois contribuer à des transformations de façon court terme, mais aussi vivre très intensément, tout de suite maintenant, les choses qui nous enchantent, qui nous portent, qui peuvent nous passionner, les équilibres qui vont être ceux qui vont nous permettre de nous épanouir en tant qu'individu. Et donc, c'est quand je dis changer de paradigme, c'est ça aussi, je pense, qu'il faut comprendre quand on est employeur, c'est que cette perception, elle est, on n'a pas du tout les mêmes perceptions potentiellement d'une génération à l'autre, et tout ça est en train de nous transformer. En tous les cas, l'optimisme que j'ai, c'est que l'envie de travailler est très forte chez les jeunes générations. Et c'est comment on va écouter, accompagner. Alors, vous me dites si je suis trop longue, hein, si je dérive, voilà. Mais c'est comment l'entreprise va néanmoins bien redire son statut d'entreprise. En fait. C'est-à-dire que à la fois, c'est comme, je vais faire une analogie peut-être un peu hasardeuse, mais c'est comme aller dans un restaurant. En fait, si je vais dans un restaurant, je ne sais pas moi, un peu bistronome, je sais que je ne vais peut-être pas avoir des sushis, en fait. Donc, du coup, mais c'est annoncé. Donc, en fait, une entreprise, quelque part, elle a son cadre, elle a sa proposition de valeur, elle a ses façons de travailler, de proposer le cadre de vie. Elle peut faire évoluer autour de ça des choses de sorte que ça puisse répondre à une demande de collaborateurs, une demande de candidats qui puisse être un compromis jouable, mais elle ne peut pas se révolutionner, en fait. Donc, il y a quand même un cadre. Il faut qu'on pose, et d'ailleurs qui est structurant malgré tout, donc ce cadre de la culture, du projet et des règles du jeu qu'on a ensemble. Et à l'intérieur de ça, c'est comment je viens tisser quelque chose qui va être de l'ordre de la reconnaissance de l'individu en ce qu'il est, en ce à quoi il aspire, et comment on va créer, lui et moi en tant qu'employeur, un terreau qui soit fertile pour les deux. Ce que je vois aussi, c'est que, enfin, il me semble, hein, il y a une raccourcissement des cycles, potentiellement des collaborations. Aujourd'hui, j'ai tendance à encourager ce qu'on parle de deal quelque part, c'est-à-dire c'est quoi le bon deal entre nous, et de pouvoir resigner le deal au fur et à mesure du temps, en réadaptant au fur et à mesure les choses pour voir si on trouve ce bon équilibre. Là où la maturité doit être, c'est du côté des deux parties, lorsque effectivement, ce cadre collectif ne peut plus s'adapter parce que je ne vais pas passer d'un type de restaurant à un autre, pour reprendre mon analogie. Et là, auquel cas, effectivement, il y a une considération du côté des collaborateurs à prendre leurs responsabilités si jamais, effectivement, ce cadre-là ne leur permet plus d'avoir autant de fertilité qu'avant. Je ne sais pas si je suis claire et si c'est parlant pour tout le monde. Donc oui, nous, au sein de l'étincelle RH, malgré tout, on milite pour ces évolutions de mode de collaboration. On milite pour qu'il y ait de l'ouverture, mais que ce ne soit pas non plus dans une forme de déstructuration qui mette l'entreprise en porte-à-faux, parce qu'on en a besoin de l'entreprise. Être en entreprise, c'est faire société au sens littéral et figuré du terme, en fait. Donc, il y a un écosystème qui est là, qui doit être respecté aussi dans ses fondamentaux. Maintenant, c'est comment on réenchante. Et sincèrement, pour le redire, je pense qu'il y a des notions de ces pensées limitantes, ces modes de travail dans lesquels nous, on était. Il y a une forme de deuil, de rupture à faire, mais aussi retrouver un projet qui nous enchante aussi en tant que manager et en tant qu'employeur avec ces nouveaux modes. Moi, mon associé est arrivé en tant que slasher dans l'entreprise, ça a été une source de grande créativité, c'est-à-dire qu'il était à la fois encore dans son ancienne entreprise sur une direction des ressources humaines, et à la fois chez nous. Donc il y a eu un tuilage qui s'est fait progressivement, en fait. Donc au départ, il était en 3 jours avec nous et 2 jours dans l'entreprise. Puis petit à petit, le temps s'est inversé et donc il est arrivé pleinement dans l'entreprise, mais au bout de presque 2 années. Et ce qui a été un apport à la fois pour lui, parce que, alors je ne veux pas emprunter ces mots, mais quand même, mais il avait le sentiment d'avoir deux jambes. Donc, ça fonctionnait bien pour lui. C'est-à-dire que quand il était dans son groupe très processé, avec une forme de moyens différents, une intellectualisation des projets, d'une certaine façon, ça le stimulait. Et puis, en même temps, il retrouvait un autre équilibre qui posait un bon curseur au sein de notre PME, avec une équipe à construire, à accompagner, des moyens peut-être plus modestes et à la fois plus d'agilité, de créativité et un esprit d'entreprendre qu'il venait chercher. Et ça a été sincèrement vertueux pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une façon de fonctionner que nous avons eue et que nous continuerons potentiellement à avoir parce que ça a été apporteur. Donc il pourrait arriver et on en serait... on l'accueillerait de façon positive si effectivement nos collaborateurs venaient à dire ben, moi j'ai envie de se lâcher, à la fois d'être encore là et en même temps de tester, d'expérimenter quelque chose. Je pense que nous l'accompagnerons aujourd'hui sans difficulté puisque le retour d'expérience a été positif. De la même façon, notre équipe est à la fois une équipe de collaborateurs en CDI et j'ai moi longtemps milité pour le CDI, ça donne de la perspective, en même temps on voit que voilà, ça peut être bousculé, et aujourd'hui on a une équipe étincelle RH, mais on a aussi une équipe d'externes à étincelle RH, mais c'est un réseau que nous avons vraiment choisi, nous sommes mutuellement choisis avec ces personnes-là, on a envie de travailler ensemble, et en fait ce qui fait socle commun, c'est ce partage de valeurs, c'est les convictions qu'on a par rapport à notre métier, on s'est validé mutuellement cet alignement-là, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien, à la fois dans l'efficience qu'on apporte à nos clients et à la fois aussi dans l'état d'esprit qu'on partage tous ensemble. Et à la limite, je préfère m'appuyer sur des gens à l'externe qui fonctionnent bien, qui sont alignés, avec qui il y a une vraie réciprocité, où on va avoir finalement au cœur de notre relation le client, mais voilà, qui soit vraiment efficace, plutôt que d'avoir des personnes qui sont à lutter ou à marcher contre le vent en étant en CDI et finalement peut-être un peu plus contraints par un cadre auquel ils ne se reconnaissent plus, en fait. Donc cette organisation hybride agile, nous, on la pratique. Je pense qu'on va la pratiquer de plus en plus aujourd'hui, on en génère vraiment des résultats positifs. Donc, ce sont des choses qu'on encourage. Aujourd'hui, le CDI a encore de beaux jours devant lui, mais je pense qu'effectivement, il y a une hybridation à envisager qui est tout à fait prometteuse. C'est-à-dire que le CDI côtoiera effectivement du freelancing ou de l'entrepreneuriat, même dans d'autres entreprises, sans difficulté. Est-ce que ça concerne les catégories de travailleurs ? Je ne pense pas. C'est là où ça devient aussi sensible, la problématique. Alors, vous montriez des sondages, je trouve que c'est toujours intéressant. Moi, je suis psychologue sociale de formation et j'ai envie d'aller gratter l'échantillon sur lequel a été réalisé ce sondage parce qu'aujourd'hui, on a une hyper-segmentation de la population. Quand on parle, par exemple, de 88% des 18-30 ans, à l'intérieur de ces 18-30 ans, il y a énormément de catégories socio-professionnelles, énormément de segmentation culturelle et territoriale et de niveau de formation. Donc, difficile d'en faire complètement une règle, une tendance générale. Quand on dit 88% des 18-30 ans, quels étaient ces 18-30 ans dans l'échantillon ? Il y a une enquête qui a été faite sur notre territoire, c'était sur les 15-30, du CAP ou Bac plus 5. Des métiers manuels ou Master 2. Et donc, ce qui serait intéressant pour une entreprise, c'est de dire, je reprends cette même étude, mais est-ce que je peux venir un tout petit peu spécifier la population cible qui est celle qui me concerne pour mieux comprendre quand même les attentes et ne pas aller vers ces effets de trop de tendance et bien composer à la fois avec son marché, à la fois avec ce qu'on est. Donc voilà. Donc le repenser le cadre que j'ai mis sur le slide, c'est comment on vient articuler deux composantes, le quoi du travail et le comment on va travailler ensemble en fait. Donc dans le pourquoi du travail, il y a plusieurs composantes même à l'intérieur de cette question-là, il y a le pourquoi je veux travailler moi en tant qu'individu. Pourquoi je vais venir dans cette organisation-là et quelle œuvre on va pouvoir proposer ensemble. Et il y a le pourquoi aussi potentiellement du c'est quoi ma contribution sur une dimension qui est plus abstraite mais qui serait de l'intergénérationnel. Et là, on parle d'une certaine forme de transformation du monde à laquelle on peut participer. Donc, ces trois composantes peuvent être questionnées ou tout simplement l'une d'elles ou deux d'entre elles peuvent être questionnées par l'individu. Et puis après, il y a le comment on va travailler ensemble. Et là, on est sur les conditions de travail, sur les modalités managériales, sur les politiques sociales. On va venir composer ces, finalement cet ensemble-là doit être présenté, exprimé, proposé pour justement ne pas focaliser non plus sur des points trop précis, mais donner une vision d'ensemble qui soit fertile. Donc, quand on a pensé le télétravail au sein de l'étincelle RH, alors je pense que comme beaucoup d'entreprises, on a fait des allers-retours hein, avec le Covid, compte tenu forcément des règles sanitaires. Et puis, à un moment donné, il s'est agi quand même de se dire bah, qu'est-ce qu'on décide de façon un petit peu plus durable dans notre organisation. Je vous avoue que notre culture est celle du décalé, du pas de côté, très fort, et on a tendance à être mal à l'aise avec voilà, des choses un petit peu conformistes, et on entendait partout les travailleurs, combien toi tu as de jours par semaine, etc., ce qui était, je trouvais, assez limitant hein, comme mode de fonctionnement, parce que ça donne lieu à tout un tas de débats et de problématiques très, très, très court terme, hein, très hebdomadaires. Donc, en fait, on a fait le choix d'exploser le cadre hebdomadaire et de dire, bah, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas combien de jours j'ai de télétravail à la semaine, c'est un nomadisme avec un contingent à l'année, en fait, que l'on vient composer. Donc, c'est le collaborateur qui, à l'intérieur de ce schéma-là, voit le schéma qui lui est le plus favorable, en fait. Et donc, à partir de ce moment, alors, sachant qu'il y a quelques règles de précaution pour que, effectivement, la notion de collectif et de service client soit entendue. Donc, ce qu'on a mis dans la charte, ça, il y a eu adhésion de l'équipe. Ils ont aussi la possibilité de dire « je suis nomade pendant 2 semaines d'affilée ». Donc, ils peuvent travailler. Alors, j'ai, par exemple, dit sur le même fuseau horaire, parce que notre clientèle est franco-française. Et donc, on est très en interaction, très par téléphone à travailler. Donc ça, c'était clairement une limite technique qu'on ne pouvait pas dépasser. Donc aujourd'hui, les collaborateurs sont libres de choisir. Donc il y a des semaines potentiellement, ils peuvent être un petit peu plus en télétravail, puis ils vont rééquilibrer ça à d'autres moments. D'autres sont très réguliers dans la planification de ces jours de télétravail parce que ça correspond à des modes de fonctionnement. Je pense à une de nos collaboratrices qui est jeune, qui sort juste de son alternance qu'on a eu la chance de garder. Elle est proche de sa famille, ils habitent dans un autre département. Voilà, souvent le jour de télétravail, elle le fait le vendredi. Moi, j'ai pas de limite à ça. Quoi, c'est que ça lui permet de partir le jeudi soir. Elle fait la route le vendredi matin. Elle est au travail à distance. Accessoirement parlant, je pense qu'elle se met les pieds sous la table pour profiter de la famille au moment du déjeuner. Lui libère aussi l'esprit et on a un équilibre et la performance n'a pas été impactée. Donc, et en moyenne, on est sur 1 à 2 jours et demi de télétravail par semaine, si je devais faire une moyenne. Et voilà, on a vraiment décorrélé notre problématique de la façon de voir le télétravail qu'on voyait un petit peu partout, qui était de dire combien de jours de télétravail par semaine. Ça a été un choix vraiment de réfléchir notre schéma de façon beaucoup plus congruente avec qui on est, avec notre culture. Et de fait, les collaborateurs ont été en adhésion parce que ça ressemblait vraiment à qui on était. En fait, ce n'était pas quelque chose de plaqué sur lequel on force un petit peu le système. C'est le système qui lui-même a délimité sa propre façon de fonctionner dans ce cadre du télétravail. Donc, et là où on a fait évoluer aussi nos modes de fonctionnement, c'est de se dire, alors dans un métier tertiaire, donc je ne vais évidemment pas avoir les mêmes problématiques qu'en industrie, ça c'est certain, mais aujourd'hui, L'étincelle RH, c'est une entreprise physique, c'est une entreprise digitalisée. Donc, on a une cohésion à animer qui est sur ces deux espaces géographiques distincts, en fait. Et c'est comment l'espace digitalisé est un écho culturellement aligné avec l'espace physique dans lequel aussi on évolue. Donc, on a nos locaux où on va effectivement générer de l'événementiel, des temps de réunion. On a fait le choix que tous les lundis, enfin lundi tous les 15 jours, toute l'équipe se réunit sur site, sans exception, et on se retrouve, et voilà, ça nous fait du bien. Et puis, il y a d'autres moments qu'on va proposer, qui vont provoquer justement la rencontre et qui vont nourrir. Il y a des temps collectifs aussi de travail sur lesquels il n'y a pas d'impasse et les personnes sont présentes. Et puis, dans l'espace digitalisé, on va retrouver aussi des leviers de cohésion, de communication qui permettent de faire vivre là où en espace physique, on viendrait se donner la nouvelle au moment du déjeuner ou partager. Eh ben, l'espace digitalisé permet une spontanéité qui soit la plus proche possible de ce qu'on vivrait, pour que ce soit le reflet de ce qu'on est. Est-ce que c'est parfait ? Non. Est-ce que aujourd'hui, on a encore des questionnements sur est-ce qu'on est notre cohésion est assez forte, etc. Bien sûr qu'on en a. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il a fallu mener ces chantiers de transformation. Et moi-même, en tant que dirigeante, je mène ce travail de transformation de la façon dont je vois les choses. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup être en contact avec les gens dans nos locaux. J'ai créé l'entreprise du métier de la rencontre, je suis psy de formation, je suis très relationnelle, ouais, j'aime voir les gens, j'aime bien leur parler en vrai, entre guillemets, et à la fois, c'est comment je vis avec mon époque, et j'ai fait évoluer aussi ma pensée autour de ça, et il y a encore des pensées limitantes que j'ai.
On va laisser du coup réagir Thomas Kerjean, peut-être, par rapport aux derniers éléments que vous avez faits, peut-être leur poser les mêmes questions, et du côté de Made in Black, voilà, quelles sont leurs analyses? Comment font-ils? Je vous laisse la parole, Thomas.
Eh bien, bonjour.
Bonjour.
De nous accueillir dans ce webinaire qui est très intéressant. On a échangé des feedbacks avec Catherine. Catherine qui était avec moi, qui est DRH.
Bonjour à tous.
Bonjour. On est une société dans la tech. Dont j'ai pris la direction il y a 4 ans maintenant, en venant de la tech américaine. Hein. J'ai travaillé toute ma carrière chez des Microsoft, des Google, l'écosystème Amazon, dans l'écosystème californien et nord-américain qui a inspiré un peu aussi des modèles de travail. Et à présent dirigeant d'une société cyber en France, effectivement, j'ai quelques sujets à partager avec vous. On avait publié une slide, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que vous voulez l'afficher. Juste quelques éléments rapides. En vous écoutant, je ne peux que réagir en ayant vécu aux États-Unis, en Chine, en étant revenu en Europe et en France, quand me disant, je vois les chocs majeurs auxquels vous faites allusion. La chute du mur de Berlin, on rêve de quoi? La crise des subprimes, plus payer une maison, le rapport du GIEC, l'industrie finalement sert à tuer le monde. Zuckerberg, qui après Cambridge Analytica, se dit désolé devant le Sénat américain. Donc finalement, les Occidentaux et singulièrement les Français ne croient plus aux récits politiques, aux récits économiques, aux récits religieux pour leur large partie, ils voudraient croire au récit écologique et identitaire. Ils veulent travailler à des projets dont ils voient l'utilité et apprendre. Et finalement, une entreprise, si on se remet sur ce qu'est une entreprise, j'ai un premier point de partage qui est important, qui est une entreprise, c'est un business. C'est pas une ONG, c'est pas un parti politique, c'est pas une religion. Mais cette entreprise, elle peut avoir pour business, donc un objet finalement qui est perçu comme attractif, comme les énergies renouvelables, comme l'industrie dans laquelle on est nous-mêmes, la cybersécurité. On peut dire à nos employés, nous avons contribué cette année à protéger les hôpitaux de 150 millions de cyberattaques et les faire tourner. Donc, on a des lieux qui peuvent être perçus comme attractifs et qui sont en croissance. D'autres lieux, d'autres objets qui peuvent être perçus comme repoussants, comme les industries identifiées comme polluantes, carbone. Donc, l'objet social de l'entreprise, ça reste quand même un déterminant extrêmement fort dans ce contexte. Après, cette entreprise, elle peut avoir une culture, malgré son objet, qui favorise l'intelligence, la responsabilité. La France m'apparaît comme un pays où la relation entre manager et manager doit se réinventer vraiment profondément pour faire confiance à l'intelligence des équipes. Partir du principe que si on travaille ensemble sur un projet commun, sur une vision commune, la responsabilité doit être accordée à 100%. Et donc, le développement personnel et la flexibilité associée deviennent finalement des sujets périphériques. À mon sens, en tout cas, depuis mon retour en France, je ne prends pas la flexibilité comme un sujet à part entière, je prends la responsabilité comme un sujet central dont découle toute l'organisation de la vie personnelle et professionnelle d'un individu. Donc, l'objet, la culture, pour moi, le vrai changement ici sur la culture, c'est qu'il s'agit de ne plus infantiliser les gens. Il s'agit d'être clair, que ça plaise ou non d'ailleurs, on peut ne pas adhérer hein, avec ce que dit un dirigeant, mais que ce soit clair. Ne pas cacher, ne pas décider pour les autres. Finalement, assumer pleinement, ne plus aller sur des terrains comme quantité de start-up l'ont fait, hein, j'ai beaucoup évolué dans ces milieux-là aussi. Les valeurs affichées sur voilà, ça n'a plus de sens ça aujourd'hui. Ce qui est attendu pour moi, c'est de vivre des valeurs sans qu'il y ait une feuille de papier entre le propos et la réalité. Voilà. Et en étant moins, finalement, moins invasif, l'entreprise n'a pas pour vocation d'écrire une Bible, un Coran, une Torah, ça a déjà été fait d'une part et d'autre part. Ça vient du solutionnisme californien intrinsèquement, hein. Ça vient vraiment de cette promesse de très invasive finalement, de promettre de sauver le monde et d'encoder les comportements des gens jusque dans leurs croyances. Non, je pense qu'en réalité, si l'objet de l'entreprise est attractif, si sa culture favorise la responsabilité et se met d'accord sur des normes fondamentales, le sexisme, par exemple, est passible d'un licenciement du jour au lendemain chez nous. Voilà. Ça a plus de valeur, hein, pour moi, encore une fois, qui vient d'un milieu de tech américaine, de faire ça que de faire tous les offsites, tous les baby-foot du monde, garantir le sentiment de sécurité sur le lieu de travail et être certain qu'on est tous d'accord sur ce minimum requis quand on fait un projet. Hein. Ce n'est pas du ressort de la valeur, c'est du ressort d'un fondamental de travail commun. Voilà. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on est en train de revenir dans la culture. Il y a un autre élément, après l'objet et la culture, un troisième élément qui me paraît vraiment capital, qui est qu'une entreprise, elle doit avoir une vision très très claire. On est face à des gens perdus, on doit donner une vision très très claire et surtout, en aucun cas, mentir sur l'utilité de cette vision. Il ne faut pas faire de promesses. Le temps des promesses est complètement révolu. Il s'agit d'être clair sur l'impact qu'on attend à avoir collectivement. Voilà. Et quelque part d'en faire ce qui dicte nos comportements. Dire à quoi on sert. Je le répète avec Catherine dans tous les HoloLens qu'on a hein, fréquemment avec nos équipes. Je rappelle à quoi on sert. On sert à protéger 22 000 clients et 2 millions de personnes en France contre le vol, l'usurpation, sert à faire tourner des hôpitaux, à les aider à notre niveau. Donc on ne sauve pas le monde, mais on a une utilité extrêmement claire dont on peut être très très fier. Voilà. La vision, donc ça veut dire sur quoi on se projette. Et là, tout s'agrège après, à mon sens, c'est-à-dire dire notre vision, c'est de créer une plateforme pour l'utilisateur qui va le protéger dans sa vie numérique contre. Qui va protéger sa trace numérique contre le vol de mots de passe, qui va l'aider à se sensibiliser au sujet de cybersécurité, qui va l'aider à se former, qui va l'aider finalement à ne pas être attaqué dans son quotidien. Voilà, c'est ce qu'on fait, c'est notre projet industriel, c'est notre projet économique. Et là, toute l'innovation, l'innovation produit, l'innovation en intelligence artificielle, les recherches qu'on peut faire en sciences cognitives visent à accomplir cette vision. Et après, on peut être d'accord ou pas avec cette vision. Si on n'est pas, c'est pas grave, on part, on trouve quelque chose qui nous correspond mieux. En tout cas, ceux qui sont là ont un niveau de motivation extrêmement fort à l'idée d'accomplir cette vision. Je pense que la couche stratégique qui vient illustrer la vision, elle doit faire l'objet ensuite d'un consensus qui peut être modulaire. Le seul non négociable pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ces éléments de culture que je citais auparavant, mais la vision, si elle n'est pas claire, et c'est OK si on n'est pas d'accord, encore une fois, on peut ne pas être d'accord et changer d'industrie, ce n'est pas un problème en soi, au contraire, je pense qu'il est très important d'être en adéquation avec sa nature, de se dire, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est en adéquation avec ma nature profonde, ou est-ce que je suis en train de me raconter des histoires à moi-même? Et donc, on a peu de slasheurs finalement. J'écoutais très attentivement. On a des gens qui ont des side projects, qui ont des occupations, des hobbies, du pro bono, mais qui ne sont pas des slasheurs à proprement parler. On cherche des gens et on trouve des gens qui sont pleinement satisfaits aujourd'hui, surengagés, surénergisés. On les voit dans le fait de dire, OK, c'est cette vision. Donc, finalement, on a rassemblé la sociologie qui nous convient aussi, hein, je pense que c'est une question qui peut se poser pour beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire survendre une vision est très dangereux parce qu'elle attire des gens et elle est déceptive. Et on se met quelque part à se mentir à soi-même en tant que dirigeant. Alors qu'être vraiment en train de se dire qu'on est en train de vraiment faire ce qu'on dit, ben oui, ça sélectionne autant les gens envers nous que nous envers les gens. Et quelque part, je pense que c'est peut-être un élément d'explication. Et il y a un dernier point que je souhaitais partager. C'est en lien avec le partage de la valeur. Ça aussi, je pense qu'il y a un vrai sujet, un vrai, vrai sujet. La croissance des salaires, et la croissance du capital n'ont pas du tout suivi les mêmes trajectoires. Nous avons, splitté le capital de Mail in Black largement, très largement, pour pouvoir se dire que si le projet, si la vision se concrétise, si le projet est une réussite, que tout le monde touchera une très significative part du gâteau. Voilà. Sans qu'il y ait des écarts de salaire, des écarts de compensation de rémunération, dans des proportions qui aujourd'hui, à mon sens, ne sont plus de nature à rendre acceptable l'engagement en entreprise. Vous voyez, et là, on a trouvé effectivement, évidemment, on a les chèques cadeaux, les choses comme ça, les super bons off-site avec les bons groupes, avec tout ça, ok. Mais la réalité, c'est de pouvoir finalement dire, équipe, si on accomplit ce projet-là, eh bien, si tout se passe bien avec toutes les réserves qu'il y a en termes de valorisation sur le marché, etc., bien oui, vous allez pouvoir être autonome financièrement, vous payer une maison, puis avoir de crédit, si c'est ça votre rêve. En tout cas, vous n'aurez plus à travailler pour personne que par choix, que par la liberté du choix que vous ferez. Et oui, j'ambitionne de travailler avec des gens qui n'ont qu'envie de travailler avec moi. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas envie de travailler, s'ils sont obligés de le faire quelque part parce qu'ils sont liés à une pression financière, c'est quelque chose que je juge n'est pas totalement sain en réalité. Donc, pouvoir se dire, OK, s'ils ont la totale latitude, comme dans un mariage, bien sûr, mais à bien moindre échelle, hein, être autonome l'un de l'autre et n'être là que parce qu'on a envie d'être là, mais ça, c'est plus sain comme rapport, je trouve. Et donc, je pense que le partage de la valeur est un vrai, vrai sujet qui aujourd'hui fait qu'on a un désintérêt, un désengagement et que réengager, si on est sincère, c'est se dire, OK, si cette valorisation dépasse les 500 millions d'euros, si un fonds en capte 400, il faut le dire, hein, il faut le dire, sur les 100 qui restent, on fait quoi? Est-ce que moi, je prends 90 et vous 10? Non. Non, non, ça ne pourra plus, à mon humble avis, ce n'est qu'un retour d'expérience très empirique. Je n'ai pas le niveau d'expertise des gens qui font des analyses autour de cette table, mais ça ne pourra pas structurellement tenir si on veut réengager les gens sur des projets. Catherine, qui a mené quantité de chantiers, peut vous parler des équipes et de nos priorités.
En effet, ce qui ressort au niveau des recrutements et au niveau des questionnaires qu'on pose par la suite à nos différents collaborateurs, qu'est-ce qui vous fait rester chez Made in Black? Et pour la plupart du temps, on entend le sens du projet, les technologies pour la partie tech, l'intérêt et l'utilité qu'on peut avoir auprès de nos clients par rapport à notre activité. Donc, on est attractif par notre activité, ça c'est vrai. On n'est pas encore sur le mode du slashing. Moi, j'ai pas encore été confrontée à cette demande à date chez Made in Black. C'est quelque chose qui, si ça nous arrive, on y restera ouvert parce qu'on est très ouvert à toutes les propositions. Mais notre quotidien, c'est l'accompagnement des salariés, l'accompagnement des managers. On a une formation très accrue sur les managers parce qu'un manager qui se sent bien, un manager qui sait accompagner son équipe, ça va redescendre sur toute son équipe et le bien-être et la bienveillance va se retrouver à tous les étages. Donc là, on est très convaincus et on a tout un cycle de formation à ce sujet-là de manière mensuelle. Hein. On les voit mensuellement pour les former. Et après, on a ce sentiment de sécurité qu'on souhaite apporter, ce sentiment de flexibilité. On a la flexibilité du temps de travail qui est basée sur une grande partie sur la responsabilité de chacun. On a mis en place une 6e semaine de congé. Donc, nous, on ne parle pas de 4 jours encore. C'est pas encore remonté, bien évidemment. Je pense que si je pose la question, tout le monde dira oui. Mais quand on en dira les tenants et les aboutissants, peut-être que ça leur plaira un petit peu moins. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet. Par contre, on a mis en place depuis 2024 l'accompagnement d'un retour à la maternité-paternité, parce que ça, c'est un sujet fort chez nous. La moyenne d'âge est à 30 ans, donc on a pas mal de personnes qui vont être nouveau papa ou nouvelle maman, et on sait que ces retours sont toujours un peu douloureux. Donc, on les accompagne pendant une durée encore supérieure à 3 mois après leur retour, où on leur permet de travailler à 80%, payé à 100%. Donc, ça, c'est très, très bien accueilli aussi. Ça leur permet d'équilibrer leur vie pro et leur vie perso au quotidien. Donc, notre télétravail, nous, on a posé un cadre dès le départ qui a une charte de 3 jours de télétravail et 2 jours en présentiel. C'est lié à l'accompagnement du manager. Donc, si jamais ils veulent faire une semaine supplémentaire, enfin une semaine en total télétravail, à partir du moment où ils sont en lien avec leur manager, il n'y a aucun souci pour que ça se passe. Je rejoins le sujet de Anne Rochard tout à l'heure sur la même amplitude horaire, bien évidemment, parce que quand ça se passe avec des différences de décalage horaire, c'est plus problématique. Donc, on l'a cadré aussi au niveau de l'Europe chez nous. Mais c'est un sujet sur lequel on ne compte pas revenir. Hein. Tout du moins, à date, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on y revienne. Et les managers sont responsables de l'organisation de leurs équipes. On a des bons retours, ça se passe bien. Moi, je note quand même que depuis 5-6 mois, ils reviennent un peu plus au travail, ils ont besoin qu'on se retrouve, ils ont besoin qu'on recommence des petits after work. On sent qu'il y a cette ambition qui revient doucement, ce qui me réjouit beaucoup parce que moi, je ne suis pas de la même génération, donc ça m'a été plus difficile de passer au télétravail. Donc, ce sont des petits points positifs que je trouve au niveau de notre avancement. Et pour conclure, vraiment, c'est le projet d'entreprise, le sens qu'on accompagne avec Thomas qui est attractif et qui leur donne envie de travailler avec nous.
J'ai noté en fait aussi bien de votre côté Anne que de votre côté Thomas et Catherine que la relation de confiance est quelque chose qui est aujourd'hui nécessaire et que vous pensez qu'il y a aussi des améliorations à apporter au niveau de l'encadrement juridique en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'encadrement juridique au sein des entreprises permet cette souplesse que ces jeunes générations attendent?
Complètement. Il y a du vide juridique. On a quand même des contrats de travail avec des exclusivités qui peuvent entraver certaines possibilités. Donc aujourd'hui, tout n'est pas prévu pour tous ces modes de travail, encore.
Pour ma part, j'étais très, très frappé. Pardon, je vais mettre les pieds dans le plat. Mais vraiment, j'ai été frappé par un trait culturel au travail en France, en revenant, qui est que quand j'étais directeur du cabinet du président européen de Microsoft, on m'a confié en jour 2 les échanges entre Bill Gates et le président français et les dossiers, la préparation des dossiers. Donc, ce qui a évidemment généré énormément de à la fois de stress et d'enthousiasme, mais qui, tout à coup, m'a poussé Je vous donne cet exemple parce qu'il était caractéristique finalement de l'environnement dans lequel j'étais et qu'on essaye de, qu'on souhaite créer ici. Et donc, on a la relation à la responsabilité, c'est-à-dire à la confiance et à la responsabilité, et se dire, OK, quelqu'un a son niveau de compétence, son niveau de potentiel, bien entendu. Mais vous voyez, pendant le confinement, mon patron m'a demandé comment je surveillais mes managers en télétravail. Et je trouve que c'est très paradoxal comme question. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, ça signifiait que les recrutements n'avaient pas été bons, en fait. Parce que c'est impossible de faire ça à échelle. Déjà, à notre échelle de scale-up, hein, on est une PME de 100 personnes. Donc, j'avais peine à imaginer à l'échelle de 20 000 personnes comment on pouvait arriver à gérer, à manager de cette manière-là et tout ça. Alors, après, il y a plein de choses rassurantes. Je pense que cette génération, justement, j'ai plein d'optimisme sur sa façon aussi plus pragmatique d'aborder les choses par le projet. Mais ça, c'est un trait culturel, la responsabilisation. J'en suis venu à me demander si le middle management était vraiment utile, en fait, en France. Et si ce n'était pas un problème, en réalité. Si ce n'était pas une grosse cause du problème, si finalement, libérer des énergies dans un pays qui ne demande que ça. Vous voyez, on me demande souvent pourquoi on a autant de femmes dans le management, on a une majorité de femmes en comité de direction et non pas en managériel. On n'a pas voulu ça, on a juste lâché les gens, on a juste ensuite sélectionné les plus méritants, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et donc, il y a beaucoup d'énergie à libérer dans ce pays, je pense, en réalité, pourvu qu'on se dise, bah, OK, on transfère une compétence, une responsabilité à quelqu'un. Et ça commet des erreurs d'abord, mais ensuite, les gens sont bien plus surprenants que ce qu'on pense, hein, dans plus de 50% des cas. Donc, ça vaut le coup, je pense. Voilà. Ma réponse n'est pas juridique, elle est vraiment très culturelle. Et pour moi, ça ne veut rien dire. Ouais, on est en France. Ben non, en fait, moi, je suis français aussi. Et c'est peut-être nous aussi, la France, quoi, quelque part. Voilà.
À mon sens, les managers et le middle management sont, ils me semblent nécessaires. En revanche, c'est quel rôle ils ont, quel rôle ils comprennent avoir. Et c'est intéressant ce que vous faites au niveau de
la question. On s'aperçoit que être manager, ben d'abord, c'est pas inné. Il y a quand même, il faut y avoir une appétence, ça c'est certain, d'avoir envie de faire grandir ses équipes, justement pour pas avoir des pensées limitantes et essayer d'écraser tout à chacun, mais au contraire de les faire sortir de leur zone de confort et de les faire se développer et de leur faire prendre confiance en eux. C'est un sujet qu'on accompagne tous les mois et on a des super retours d'expérience par rapport à ça avec des personnes qui se retrouvent face à leur équipe avec un vrai dynamisme, savoir transmettre le sens du projet parce que ce sont nos ambassadeurs. Moi, je prends toujours l'image du chef d'orchestre. Si le chef d'orchestre fait une mauvaise note, tout l'orchestre va mal jouer tout au long du spectacle. Donc, pour nous, c'est la même chose. Si jamais on inculque dès le départ le sens, la valeur, tout en étant dans un cadre, dans de l'exigence et de la bienveillance, et qu'on accompagne ça avec délicatesse, ça se passe bien. Voilà. Donc, bon, alors évidemment, hein, on a des couacs, on a des moments où il y a des tensions, on a tout ça, bien évidemment. Mais le fait de l'accompagner, je sens, ça fait maintenant un an et demi qu'on le fait, et je vois une vraie différence dans les équipes, dans les ambiances, même dans le recrutement, parce que du coup, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus et ce qu'on a traversé et tous ces retours d'expérience sont très, très enrichissants.
Alors, c'est vrai qu'on a parlé tertiaire, mais qu'en est-il des sites industriels et des collaborateurs qui sont dans l'atelier? Peut-être que ça fera l'objet d'un webinaire spécifique. Ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir des témoignages sur ce qui se passe en industrie. Dans l'industrie, ensuite, oui, les jeunes diplômés qui vont sortir de l'école dans les trois prochaines années sont peut-être pas vraiment demandeurs de télétravail tant ils ont souffert de la distance à la fin de leurs études, quoi. Donc ça, c'est vrai, c'est une tendance qu'il faudra regarder, voir comment ça va évoluer.
Je pense que Catherine l'a mentionné, qu'il y a cette envie qu'on observe aussi du retour au présentiel, de recréer le lien, etc., ce qui répond un peu à l'observation dans le chat.
Juste sur les deux sujets, oui, il faut vraiment faire des choses à part pour l'industrie, parce que dans nos environnements tertiaires, voilà, on a des modes de fonctionnement qui ne se retrouvent pas, et il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'être pensées et construites. recrute en industrie, et ouais, y a des vraies problématiques. Mais à la fois avec des contrats sociaux qui peuvent être intéressants aussi, hein, même dans des logiques 3-8. Enfin, voilà, c'est... Bref. Donc, je crois que c'est un vrai sujet à part. Et pour les jeunes diplômés qui sont demandeurs de travail, on constate, donc, c'est que, en fait, quand il n'y a pas de politique de télétravail, ça peut être un problème. Et quand elle est là, en tout cas, que c'est permis, c'est OK. Effectivement, ils ne vont pas forcément le consommer. Et ces situations familiales, etc., peuvent jouer sur l'emploi du télétravail.
Juste un mot sur le feedback qui a été fait. Ce n'est pas nécessairement le mot de la fin, mais c'est vrai qu'il faut le regarder. Là, le témoignage qu'on donne, il n'a pas vocation à être reproductible, universel. On le donne au titre d'une expérience. J'ai tout à fait conscience que pour les milieux qui ne sont pas dans l'industrie des services, ce n'est pas valide. Ce qu'on a dit est très biaisé sur une industrie ici qui permet dans la nature même de son activité. Donc, j'entends bien hein, le feedback. C'est un tout autre sujet pour les métiers qui requièrent dans la santé, dans l'hôtellerie, dans quantité d'industries où là, les sujets ne sont absolument pas les mêmes. Voilà, je voulais juste bien préciser qu'on avait conscience que, et là, on présentait un exemple d'une expérience qui n'a pas vocation à être
universelle.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.